Voilà, alors il s'agit d'un bout de projet de thèse en cours, donc comme tout projet de thèse, ça soulève beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. Alors les questions soulevées par cette communication sont finalement d'essayer de comprendre les modes d'intégration des enjeux du développement durable à l'architecture et finalement quelles pourraient en être les influences sur la question de la démocratie. Alors j'étudie les instruments d'action publique pour aborder ces questions à travers deux approches, une approche plus descriptive et dans un second temps une approche plus analytique. Alors rapidement, c'est une question d'équilibre entre des modes de gouvernement et des modes de gouvernance. Donc au niveau du territoire et de l'architecture, c'est une question assez essentielle parce que chaque architecture s'inscrit dans une collectivité territoriale qui nécessite une certaine cohérence des actions et des règles communes à tous. Mais d'un autre côté, chaque architecture est aussi question de propriété privée et par essence sont des interventions disséminées sur le territoire qui nécessitent une certaine surmesure, notamment au niveau des réglementations et des discussions qu'on peut avoir avec les politiques publiques à cet égard. Pareil pour le développement durable, une question importante parce qu'on est à la fois dans une question de bien commun et à la fois dans une question d'individu. Alors au niveau des instruments d'action publique, ça prend des formes de régulation d'une part avec une définition de standard qui va préciser des objectifs de moyens ou même techniques. Et au niveau des modes de gouvernance, ça prend des formes d'incitation et de négociation où on ne va pas définir précisément des objectifs mais on va plutôt travailler sur l'organisation des acteurs. Alors toute cette question d'équilibre m'amène à poser que la reterritorialisation durable peut être considérée comme un métaprojet. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un cadre juridique stable, des objectifs majeurs bien définis, mais aussi une certaine souplesse normative, parce qu'il faut pouvoir s'adapter aux diverses évolutions sociétales et techniques. Rapidement pour Bruxelles, parce que la question de l'architecture est différente par rapport à celle de la France, l'architecture et l'urbanisme est une compétence régionale avant tout. Alors la région bruxelloise a été fondée en 1989, ce qui est assez récent. Donc jusqu'à 2003, on a une énorme dynamique instrumentale pour mettre un petit peu au point les instruments les plus fondamentaux. En 2003, c'est aussi un tournant parce qu'on a eu la formation d'une compétence ministérielle en énergie, environnement et rénovation urbaine. Donc la réunion de toutes ces compétences a fait en sorte que ça induit une nouvelle dynamique qui touche très fort l'architecture, comme on va le voir. Alors on a évidemment des compétences communales, donc on décline et on précise tous ces outils régionaux. Et enfin, on a des règles de déontologie et de protection inhérentes aux compétences des acteurs de la construction qui sont très particulières, parce que ça induit que dès qu'on touche à un élément de la stabilité du bâtiment ou à la répartition des fonctions, on doit faire appel à des procédures de demande de permis et à un architecte. Donc ça peut paraître contraignant, mais finalement ça offre un potentiel de grande maîtrise publique de toutes ces interventions très disséminées sur le territoire. Donc par exemple, en 2010, on a eu 5600 demandes de permis d'urbanisme qui concernent juste l'architecture. C'est fait à peu près 3% du parc immobilier de la région. Alors l'approche descriptive a consisté en un relevé de la trame instrumentale. Je vais passer très rapidement dessus, c'est plus à titre d'illustration parce qu'on peut y passer des jours. Alors en bleu, on voit apparaître finalement tous les outils qui ont été mis en place par rapport à cette politique qu'on pourrait appeler de durabilisation de l'architecture. Donc on voit des ordonnances qui émanent d'incitations européennes et des plans particuliers qui sont finalement toute une pluralité de plans très stratégiques avec des objets très particuliers, très définis comme vous avez en France, avec des zones géographiques aussi définies de manière particulière et qui s'agencent tous un peu mal. Alors la négociation est quelque chose de très important en architecture en Belgique de manière très générale parce que chaque projet est discuté, quel qu'il soit, de manière très rapide dans le processus de conception architecturale avec des autorités. Alors ces autorités varient selon les typologies de demandes, donc on peut même avoir des compétences très particulières qui ont à voir avec le patrimoine, l'environnement. Et alors cette négociation peut même s'ouvrir aux habitants du quartier. Ça arrive très très souvent parce que dès qu'on déroge à une règle, ce qui est récurrent en architecture à Bruxelles, c'est que concerne plus de 50% des demandes de permis en 2010. On ouvre les dossiers aux habitants qui ont le droit de faire des remarques, qui sont généralement bien entendues et qui évidemment provoquent beaucoup de tensions. Alors l'incitation, il y a tellement de typologies d'outils que je reprends trois typologies définies par l'ASCOUM et le GALES. Donc on voit qu'au niveau économique et fiscal, il y avait déjà pas mal d'outils avant 2003 et qu'on en a rajouté avec vraiment des systèmes de primes et de subventions pour encourager à cette mobilisation sociale d'améliorer le cadre bâti. Alors, au niveau informatif et communicationnel, on voit qu'il n'existait pas grand-chose avant 2003 et qu'on a développé toute une série d'instruments très particuliers qui prennent des typologies vraiment différentes et qui s'adressent à tout type d'acteurs. Donc, on a du public, des architectes, des entrepreneurs, des maîtres d'ouvrage publics. Donc, là-dessus, ça reste assez complet en théorie. Pareil pour tout ce qui est conventionnel et incitatif. Il n'existait pas grand-chose. Beaucoup d'outils ont été développés et chacun peut un petit peu y trouver son compte. En théorie, ça c'est l'approche descriptive. Donc on a l'impression qu'on met beaucoup sur l'incitation, peu sur la régulation, et finalement on aurait tendance à penser qu'on est vraiment dans un mode de gouvernance. Donc on mobilise les acteurs plutôt que d'obliger à respecter des standards et des moyens techniques. Alors en tant que professionnelle de l'architecture, je sais très bien que cette approche descriptive est totalement insuffisante et j'ai voulu l'analyser selon un axe toujours gouvernement-gouvernance, que j'ai divisé en quatre sous-axes qui sont composés de caractéristiques antagonistes de ces deux modes de gouvernement et gouvernance. Alors le premier qui parle de la question du décontextualisé-contextualisé. Au niveau de la démocratie, c'est très important parce qu'on a un besoin d'uniformiser les droits et obligations. Et d'un autre côté, par rapport à l'architecture, comme je l'ai dit, c'est une question de surmesure. Donc il faut quand même garder une certaine possibilité de varier ces contraintes selon le contexte. Au niveau des instruments à Bruxelles, qu'est-ce qu'on voit ? Alors on voit qu'il y a une contextualisation des outils qui concernent la typologie des travaux. Donc on est en rénovation lourde, légère ou construction neuve. On ne va pas obliger les mêmes résultats de moyens. Et pareil, on a des contextualisations socio-économiques et stratégiques. Donc par exemple, les primes varient selon les revenus des demandeurs et la situation géographique du bâtiment. Par contre, la question des fonctions n'est absolument pas intégrée. Donc qu'on soit en logement, bureau, crèche, bibliothèque, les standards sont toujours les mêmes. Donc on a vraiment toute une série de standards types qu'on retrouve et cette question du fonction de l'architecture n'est pas intégrée. Alors une exception qui mérite d'être soulignée parce que c'est la grande fierté bruxelloise, c'est le label bâtiment exemplaire. Donc c'est une certification, mais c'est une certification qui ne va pas s'attacher à un référentiel technique assez classique. Ça s'attribue un peu comme un jury de concours d'architecture. Donc c'est des experts qui sont réunis et qui vont analyser de manière plus subjective la qualité architecturale, son intégration au territoire. Donc toutes des choses qui sont très compliquées à normaliser, et évidemment tout son caractère environnemental. Bon, cela n'empêche que cette question de cette décontextualisation par rapport à un appui sur des standards types induit plusieurs avantages et désavantages. Donc on a une simplification des prises de décision, ce qui n'est pas négligeable, on le sait, des concepteurs aujourd'hui qui ont quand même affaire à énormément d'informations neuves qui arrivent parfois de manière très violente. Et surtout, ça induit une cohérence des actions. D'un autre côté, ça induit une schématisation des enjeux et une simplification de la réalité. Donc tout ça provoque beaucoup de malcompréhension de la question du développement durable au niveau des politiques publiques, au niveau des architectes, au niveau des maîtres d'ouvrage. Donc on voit vraiment l'architecture durable, c'est une architecture passive parfois. Enfin, il y a vraiment des raccourcis qui sont faits à cet égard. Et on a une tendance à l'uniformisation des réponses. Donc là, on peut soulever des questions par rapport à tous les principes de précaution. Donc on a vu dans l'histoire de l'architecture, à certains moments, on a uniformisé des grandes idées et on l'a toujours regretté a posteriori. Alors, toute la question de la pression normative européenne et la multiplication des labels privés mettent en question, évidemment, cet équilibre déjà fragile, décontextualisé, contextualisé. Le deuxième axe, contraignant permissif. Au niveau de la démocratie, il s'agit de la nécessité de rendre cohérentes les actions, mais d'un autre côté, aussi de responsabiliser les acteurs. Donc, je pense que vous avez tous en tête beaucoup d'ouvrages à ce sujet. Alors, au niveau des instruments, on voit que la contrainte est actuellement principalement d'ordre administratif. Au niveau des objectifs à atteindre, ce n'est pas encore trop compliqué, mais cela n'empêche que c'est un processus temporaire, parce qu'en 2015, à Bruxelles, la construction neuve devrait être passive et la rénovation lourde devrait être très basse énergie. Donc là, les contraintes d'un point de vue technique sont très très lourdes. Par rapport à cette approche permissive de l'architecture aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, on est dans tous des processus de démocratie continue. Il y a des encadrements multiples des acteurs qui sont mis en place puisqu'il faut pousser à cette mobilisation sociale. Donc on va mettre énormément d'outils en œuvre et on va essayer d'en mettre assez et avec des typologies très différentes pour que chacun puisse y trouver son compte. D'un autre côté, le gros problème avec cette permissivité, c'est finalement quelle est fonction de la priorité des acteurs. Donc ça rend ces outils très fragiles. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit au niveau des autorités publiques, au niveau du fédéral, par exemple, début 2012, on a aboli tous les instruments d'incitation fiscale parce que c'est la crise économique. Bon. Au niveau des maîtres d'ouvrage, on voit autre chose, c'est qu'ils préfèrent d'abord avoir une salle de bain et une cuisine avant d'avoir un triple vitrage. Et le coût de la construction fait en sorte que toutes ces questions environnementales et principalement énergétiques passent vraiment au second plan pour une partie de la population, pas par manque d'informations ou de volonté, mais par manque de moyens financiers, souvent. Alors, ce processus temporaire soulève aussi une question par rapport aux politiques publiques. Alors, elle pourrait les prendre comme un processus d'apprentissage, donc se dire que quelques années tampons pourraient servir à analyser finalement les processus et finalement à un petit peu finaliser ce processus normatif qui va arriver et qui s'annonce très difficile. D'un autre côté, il pourrait aussi s'agir d'un processus que j'appelle de propagande, et le terme est certainement trop incisif pour être parfait, mais il rapproche bien l'idée que j'ai. Donc il y a tellement une volonté de faire passer ces normes qui vont être très difficiles, tant pour les maîtres d'ouvrage que pour les architectes et les entrepreneurs, que finalement, il faut donner un message très positif à tous ces acteurs. Et le problème dans les messages positifs, c'est que tout défaut constaté fragilise ce message. Donc on a toutes des questions, l'effet rebond dont on ne parle jamais, les différences de calcul théorique et la consommation efficiente dans les bâtiments, l'impact réel sur les coûts de la construction sont des choses dont on entend très 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 peu parler, ou alors on en parle pour faire croire qu'on en parle. Mais bon. Alors le troisième axe, qui est la question de l'injonction et de la négociation. En matière de démocratie, c'est assez intéressant l'injonction, l'air de rien, parce que ça donne des références. Donc on a vraiment une clarté, une compréhension essentielle en droit, parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec le bien privé qu'on a acheté, on sait ce qu'on peut faire par rapport aux voisins qui habitent à côté de nous, et ça nous assure que demain, il n'y aura pas une énorme tour à côté de notre petite maison. La négociation est aussi essentielle en termes de démocratie, parce qu'elle permet l'expression individuelle des intérêts. On a vraiment une approche réflexive et holistique, donc vraiment du cas par cas par rapport aux situations tant géographiques que les situations humaines. Et enfin, c'est surtout une alternative à l'impossible traduction normative du développement durable. Alors, au niveau des outils, on voit qu'on a peut-être une approche pour l'instant très permissive. Donc on prend ou on ne prend pas. Ça n'empêche que si on prend, ça nous renvoie automatiquement à des standards. Et ça s'arrête là. Donc c'est quand même une politique d'injonction. On est passif ou on n'est pas passif. On a un bon E, on n'a pas un bon E. Il n'y a pas à discuter. Au niveau de la négociation, on voit que c'est un outil qui est complètement oublié dans cette réflexion sur la durabilisation de l'architecture, alors qu'il y a quand même énormément de potentiel. Les acteurs de la construction et les acteurs publics ont l'habitude de discuter. On n'a pas les problèmes avec une multiplication d'acteurs à mettre d'accord autour de la table comme on a dans les projets de micro-urbanisme. Ça n'empêche que ce n'est absolument pas réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce renvoi au standard, finalement, induit une approche assez sectorialisée et technique de la question, et qu'elle rend la négociation impossible à cet égard. Donc, comme je l'ai dit, passif, pas passif, mais ça s'arrête là. Alors, aussi, ça renvoie par rapport au premier axe décontextualisé, qui schématise la réalité. Et du coup, la négociation par rapport à la qualité durable des projets d'architecture est aussi lésée par rapport à cette idée que l'architecture durable, ben, c'est avant tout la performance énergétique. Alors, on a aussi une proscription de certaines démarches architecturales qui a été évoquée hier avec l'intervention de Michael, qui pose aussi question. Donc, c'est intéressant de normaliser pour guider, mais d'un autre côté, ça influence beaucoup l'innovation en matière de réflexion sur les technologies qu'on met en place et même sur l'architecture, les matériaux. Alors, on peut poser finalement la question de la nécessité de mettre des spécialistes, et quels spécialistes au sein des autorités délivrantes. Donc si on veut pouvoir discuter du caractère durable ou de nouvelles réflexions par rapport à une approche de performance énergétique dans les bâtiments, il faut quand même avoir quelqu'un qui est capable de discuter de ces solutions techniques. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. Alors, on a aussi une question qui, moi, me pose beaucoup de problèmes éthiques, qui est l'éventuelle instrumentalisation du certificat PEB. Donc, je pense que vous l'avez aussi ici. Pour vendre ou louer, il faut un papier qui dit si on a A, B, C, Z, enfin, on évite au Z. Et l'Europe ne dit rien. L'Europe, elle demande ce certificat pour informer. Donc, pourquoi pas, c'est même très bien. Mais en région bruxelloise, on réfléchit à ce qu'on peut en faire. Donc on réfléchit à éventuellement taxer les bâtiments qui seraient des passoires énergétiques, insalubres énergétiques aussi. On entend beaucoup de termes très très négatifs à juste titre. Mais on pense aussi à éventuellement interdire la vente ou la location de ces bâtiments. Donc là, ça pose vraiment, ça soulève des questions par rapport à des droits de propriété acquis et finalement l'impossibilité pour certaines personnes de rénover leurs bâtiments. Le dernier, je fais très très vite. Accumulation-articulation. Donc l'accumulation, on est obligé de sectorialiser certaines questions, donc la performance énergétique, on est obligé de la calculer. D'un autre côté, le développement durable et l'architecture sont des systèmes complexes qui doivent être évalués dans leur globalité. Au niveau des instruments, on voit qu'on accumule des nouveaux instruments, on ne réfléchit pas tout ce qui existait avant. Par contre, la liaison entre tous ces nouveaux instruments d'action publique est assez bien établie. Alors finalement, on a une approche assez palliative et on a un problème de coordination entre nouveaux et anciens instruments d'action publique, avec toutes des ambiguïtés et une complexité de la question posée et des architectes qui parfois sont très démunis par rapport aux objectifs qu'ils devraient suivre. Alors, rapide conclusion. Effectivement, on travaille sur la responsabilisation des acteurs en incitant à la mobilisation sociale, mais c'est un processus de transition, donc... Finalement, on ne peut pas réellement parler de mode de gouvernance, c'est plutôt un mode de gouvernement qui va être très rigide en 2015 à Bruxelles. Alors, on a un dynamisme instrumental, effectivement, mais finalement, il y a une telle uniformité dans les objectifs qui sont mis par cette standardisation que ce n'est pas encore difficile à appréhender. Alors, évidemment, ça pose des questions par rapport aux capacités de négociation des acteurs et donc à la démocratie qui pourrait s'en suivre. On a des résultats à court terme qu'il faut souligner et qui sont même assez remarquables dans certains cas, mais on n'a aucune remise en question globale. Donc pour finir, on peut poser la question qui commence à être posée, qui est celle des influences socio-économiques du durcissement réglementaire qui est annoncé et qui là pose un réel problème au niveau de la démocratie. Tout le monde ne pourra pas se payer du passif, tout le monde ne pourra pas payer une rénovation très lourde qui coûte même parfois plus cher que de construire du neuf. Donc voilà, pour moi, on n'est pas dans une politique de durabilité si on ne réfléchit pas à cette question en termes de gouvernement et de gouvernance par rapport à l'instrumentalisation de l'architecture.